Înțelepciune drept, să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie de la Ioan citivă. Să luăm aminte, în vremea aceea a vrut Iisus să meargă în Galileea și a găsit acolo pe Filip și i-a zis, vino după mine. Și Filip era din Betsaida, din orașul lui Andrei și al lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și i-a zis, am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și au scris prorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Iar Natanael i-a zis lui Filip, oare poate să fie ceva bun din Nazaret? Și Filip i-a răspuns, vino și vezi. Iisus a văzut pe Natanael venind către dânsul și a zis despre el, iată cu adevărat izraelitean în care nu este vicleșug. Natanael l-a întrebat, de unde mă cunoști? Iar Iisus răspunzând i-a zis, mai înainte ca Filip să te cheme, te-am văzut când erai sub un smochin. Răspuns a Natanael și i-a zis, Rabbi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. Răspuns a Iisus și i-a zis, pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Însă îți spun ție că mai mari decât acestea vei vedea. Apoi i-a zis, adevărat, adevărat, vă spun vouă, că de acum veți vedea cerul deschizându-se și veți vedea pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul omului.
Lectură du Saint Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus avait résolu de partir pour la Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïde, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, celui dont il est question dans la loi de Moïse et les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. Nathanaël lui dit, de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Philippe lui dit, viens et vois. Jésus vit s'approcher Nathanaël et dit de lui, voici un authentique Israélite, un homme sans artifice. Nathanaël lui demanda, d'où me connais-tu? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répliqua, parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras mieux encore. Et il lui dit, amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, comme je vous ai habitué, je vais parler en français maintenant. Et après, je vais prendre un roman à la fin de la liturgie, quelques idées que je vais préparer. Tout d'abord, je voudrais m'arrêter un peu sur l'épître, sur la lecture que vous avez entendue ici au milieu de l'église avant de la lecture de l'évangile. Je crois que c'était un peu incompréhensible pour beaucoup d'entre vous, pour ça je voudrais insister un peu. Donc, le fragment se trouve dans l'épître du saint apôtre Paul adressé aux Hébreux, chapitre 11, le verset 24, 26 et jusqu'à la fin du chapitre. Très vite, qu'est-ce qui se passe dans ce message? Qu'est-ce qu'il veut dire l'apôtre Paul? Tout d'abord, c'est très important de retenir que cet épître est adressé aux Hébreux. Comme vous avez vu, il a fait quelques mentions des gens qui ont été très importants pour le peuple hébreu. Tout d'abord, il commence avec Moïse. Après les autres, Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel, les prophètes. Donc, pour les Hébreux, tout ça, tous ces personnages, ils étaient des personnages très importants. Les prophètes, Moïse, dites en hébreu de Moïse et vous dites tout. Qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul en s'adressant aux Hébreux? Il dit que tous ces personnages, même s'ils ont fait des choses très grandes, des choses merveilleuses, voilà, il dit, des autres subir l'épreuve de dérision et des fouillés, et même celle de chaînes et de la prison. Ils ont été lapidés, sciés, ils ont péri par la glaive, ils sont allés ça et là, sous des peaux de moutons et des toisons, des chèvres, etc., 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 opprimés, maltraités. Eux, dont le monde était indigne. Donc, l'apôtre Paul, il parle de tous ces personnages, présente tout leur effort de leur vie spirituelle, mais il tire une conclusion surprenante. Il dit à la fin, et tous ceux ne bénéficièrent pas de la promesse. Quelle promesse? Tous ceux, ils n'ont pas partagé, n'ont pas pu être comment est-ce que je peux dire, n'ont pas pu être là dans la venue du Christ. Tous, ils ont vécu avant le Christ. Ils ont préfiguré, ils ont parlé de la venue du Christ, mais ils n'ont pas partagé la grâce qui a été donnée par la venue du Christ et par la venue du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une chose morale qu'on peut tirer d'ici, de cette, même si on est des bons gens, même si on est des gens qui font des choses vraiment bonnes, des choses vraiment humaines, des choses vraiment qui vont vers l'autre, si nos démarches sont faites sans le Christ, on risque un peu de ne pas partager le Christ. On risque un peu d'être loin du Christ, même si on fait des choses comme il faut, des choses morales. Donc, toute la clé de nos actions doit se trouver dans le Christ. Voilà, les prophètes, ils ont été avant le Christ. Bien sûr, ils ont hérité le royaume de Dieu. Mais avant la venue de Christ, ce partage de la grâce de Dieu était incomplet, si vous voulez. Il n'était pas complet. Ils n'avaient pas une approche de la grâce complète, même s'ils ont fait toutes les choses que l'apôtre Paul présente ici. Après la venue de Christ, c'est la plénitude. Il faut retenir ça. La venue de Christ nous amène la plénitude de la grâce de Dieu. Donc c'est ça, je crois, le message de l'apôtre qui a été lu ici dans le milieu de l'Église. Je vous conseille de le lire. Épître adressé par saint apôtre Paul aux Hébreux, chapitre 11. Bon. La deuxième chose sur laquelle je voudrais m'arrêter aujourd'hui, comme vous savez, on a commencé déjà le carême. La première semaine s'est écoulée. Et qu'est-ce qu'on fête, nous, dans la première dimanche du carême? On fête le dimanche de l'orthodoxie. Pourquoi? Historiquement, il y a des choses qui se sont passées toute l'histoire du christianisme mais spécialement dans le 7e et 8e siècle, quand il y avait une grande persécution contre ceux qui vénéraient les icônes, qui se prosternaient devant les icônes. Et il y avait un synode œcuménique dans le 8e siècle qui a précisé que les chrétiens orthodoxes se prosternent devant les icônes par certains motifs. On ne se prosterne pas devant le bois, on ne se prosterne pas devant la couleur, on ne se prosterne pas devant la beauté de l'icône, mais on se prosterne devant celui qui est représenté sur l'icône. C'est-à-dire l'icône du Christ, on ne se prosterne pas devant le bois, devant la couleur, devant je ne sais pas quoi, on se prosterne devant le Christ qui est représenté dans cette icône. Aussi dans les icônes de saints, on se prosterne devant le saint, devant la Mère de Dieu qui est représentée dans cette icône. C'est une image qui nous aide à avoir une relation avec la personne qui est représentée là-bas. Donc dans cette synode œcuménique, on était condamnés, ceux qui, à leur tour, condamnaient la prosternation devant les icônes, et dans ce synode œcuménique a été proclamé comme orthodoxe cette pratique de se prosterner devant les icônes. Je répète, en se prosternant devant celui qui est représenté dans l'icône. Et à partir du 8e siècle, 9e siècle, 10e siècle, le premier dimanche du carême est dédié aux icônes. On l'appelle dimanche de l'orthodoxie parce que nous, surtout dans l'orthodoxie, on a un culte de l'icône très développé, avec une théologie de l'icône très, très développée. Et la prosternation devant les icônes, c'est très caractéristique pour nous, les orthodoxes. La deuxième chose que je voudrais préciser. Le troisième, parce que c'est le dimanche de l'orthodoxie aujourd'hui, le premier dimanche du carême. Qu'est-ce que c'est l'orthodoxie? Qu'est-ce que c'est l'orthodoxie? Peut-être vous vous demandez parfois, pourquoi il y a l'orthodoxie? Qu'est-ce que ça a en plus ou en minus vers les autres, en face des autres manières de prier à Dieu et de se manifester? Je n'ai pas de définition à vous donner. Je voudrais vous immerger 5 minutes dans des prières orthodoxes pour voir un peu la perspective de l'orthodoxie sur l'homme, sur Dieu et sur la relation entre l'homme et Dieu. Et j'ai pris comme exemple la prière de Saint Ephrem de Syrie, qui est un résumé fantastique de tout ce qui signifie l'orthodoxie. Je vous lis la prière et après on va faire 2-3 commentaires au-dessus. Seigneur et maître de ma vie, ne me donne pas un esprit de paresse, de curiosité, d'ambition et de bavardage. On va, comme un chirurgien, vers les choses très importantes de notre vie. On ne fait pas de philosophie. On est très conscient que dans nos vies, le péché est très présent. Seigneur et maître de ma vie, ne me donne pas un esprit de paresse. Et ne me dites pas que dans vos vies, il n'y a pas de paresse. Ne me donne pas un esprit de curiosité. Ne me dites pas que dans vos vies, il n'y a pas un esprit de curiosité. Ne me donne pas un esprit d'ambition. Et ne me donne pas un esprit de bavardage. Toute l'essence se trouve ici. Parce que parfois, on croit que dans l'Église, on peut très bien philosopher. On peut très bien faire des théories sur certaines choses, relations, nom, Dieu, Dieu, homme, je ne sais pas quoi. Non, non. Dans l'orthodoxie, les choses sont très claires. On va vers le fond du problème. Toute la tradition orthodoxe témoigne que l'homme est assoté par les passions. Ce n'est pas une perspective pessimiste sur ça. On ne va pas commencer à dire, voilà, on voit devant nous que des passions. Non. Mais il faut être réaliste, il faut reconnaître qu'on est assauté par des passions. On est assauté par des passions. Et la démarche orthodoxe, c'est de guérir les passions. Ne me donne pas un esprit de paresse, de curiosité, ambition, de bavardage, on pourrait continuer avec beaucoup d'autres choses. Donc, ça d'un côté. D'autre côté, la perspective orthodoxe sur la guérison de l'âme. Mais à ton serviteur, veut accorder un esprit de sagesse, d'humilité, de patience et de charité. De nouveau, toutes les sens de nos démarches spirituelles. Si on n'a pas la sagesse, on peut rien comprendre de ce que Dieu veut de nous. Si on n'a pas l'humilité, ce n'est pas la peine de vous expliquer ce qui nous arrive si on n'a pas l'humilité dans la relation entre nous, dans la relation entre nous et Dieu. Si on n'a pas la patience, aussi, ce n'est pas la peine de vous expliquer ce qui nous arrive si on n'a pas la patience dans notre vie spirituelle. Et si on n'a pas la charité, aussi, ce n'est pas la peine de vous expliquer. Tout d'abord, ne me donne pas un esprit de paresse, curiosité, ambition et bavardage. D'autre côté, mais accorde-moi un esprit de sagesse, humilité, patience et charité. Et la prière a une conclusion très belle. Oui, Seigneur mon roi, donne-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère, car tu es béni dans les siècles des siècles. Amen. C'est une prière spéciale qu'on l'a lue chaque jour du carême qui est avant Pâques. Je vous conseille de l'apprendre par cœur, en français ou en roumain. C'est pas long, il y a trois phrases. De l'apprendre par cœur et de la dire. De la dire toujours dans des circonstances spéciales de vos vies. Ne me donne pas un esprit de paresse, curiosité, ambition, bavardage. Mais à ton serviteur, accorde un esprit de sagesse, humilité, patience et charité. Oui, Seigneur mon roi, donne-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère, car tu es béni dans les siècles des siècles. Voilà une prière orthodoxe. Pour voir un peu comment ça se passe dans la spiritualité orthodoxe. Aussi, comme vous savez, je répète, la première semaine du carême est passée. Et d'habitude, dans nos églises, dans cette première semaine, on fait le canon de Saint-André de Crète, qui est une compilation, je pourrais dire, des petites prières qui font un mélange d'humilité et d'optimisme, un mélange entre la conscience de réalité du péché dans nos vies et la conscience que ce péché n'est rien. Ce péché n'est rien si l'homme se tourne vers Dieu. Je vous lis quelques prières. « Je suis blessé, vulnéré, mon Dieu. Voici que les traits de l'ennemi ont transpercé mon âme et mon corps. Mes blessures et l'inflammation de mes plaies attestent la violence de ma passion. » Ô mon âme, par tes désirs, tu as imaginé de construire une tour. C'est une allusion autour du Babylone de l'Ancien Testament. Et de fonder une ville fortifiée. Mais le Créateur a bouleversé tes projets, il a renversé tes constructions. Lève-toi, mon âme, pour combattre les passions de la chair. Comme autrefois, Josué lutta contre Amalek. Et ne te laisse pas tromper par les pensées mauvaises. Seigneur, que mes larmes, Seigneur Dieu, me deviennent la fontaine de Siloé, pour que je puisse y laver les yeux de mon cœur, afin de contempler ton éternelle clarté. J'ai péché, mon Dieu, en profanant le temple de mon corps, mais agrée mon repentir. En ta clarté, rappelle-moi pour m'éviter de devenir la proie de l'ennemi. Sauveur, aie pitié de moi. Un autre, je me suis fait ma propre idole, souillant mon âme de passion. Mais agrée mon repentir. En ta clarté, rappelle-moi pour m'éviter de devenir la proie de l'ennemi. Sauveur, aie pitié de moi. Bref est le temple de ma vie, plein de mots et de douleur. Agrée mon repentir, ô mon Dieu, en ta clarté, rappelle-moi pour m'éviter de devenir la proie de l'ennemi, sauveur et pitié de moi. On pourrait continuer beaucoup. Lorsque tu siégeras pour juger, ô Christ, lorsque ta gloire resplendira, oh, quelle crainte à ce moment, lorsque flambera la fournaise de feu et que tout homme tremblera devant ton redoutable tribunal. Mais aie pitié de moi, ô Dieu et mon Sauveur. N'exige pas de moi, ô mon Dieu, le digne fruit de repentir, car ma force est épuisée, mais donne-moi toujours la contrition du cœur et l'esprit de pauvreté, pour que je puisse, ô mon Sauveur, te les offrir en sacrifice. Ô mon juge qui me sonde et me connaît, lorsque tu viendras de nouveau avec les anges saints pour juger le monde entier, de ton regard bienveillant, regarde-moi pour m'épargner et fais-moi grâce, ô Jésus, bien que j'ai comblé la mesure du péché. Je m'arrête ici. Voilà les prières de l'orthodoxie. Essayez de comprendre l'orthodoxie pas d'une manière, comme je vous ai dit, intellectuelle, philosophique, en comparaison l'orthodoxie avec des autres choses. Non. Vivez l'orthodoxie. Vivez les prières de l'orthodoxie. Faites l'immersion dans les prières de l'orthodoxie. Faites pratiquez la confession. Mettez-vous devant le prêtre et demandez aide pour vos besoins. Lisez surtout dans ce carême qui a commencé, lisez des prières qui ont été écrites par des saints. Et vous allez plonger dans une profondeur de votre vie spirituelle incroyable. Vous allez voir que vraiment dans l'orthodoxie, on va vers le fond de choses. On va vers où il faut aller. Il n'y a pas de diplomatie, si vous voulez. Non, on est assauté par les passions. On demande à notre Dieu en aide pour les passions. La confession, c'est ça. On ne vient pas à la confession pour être puni parce qu'on a fait ça, 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 ça. Non, le péché est une blessure. Il faut bien comprendre ça. C'est une blessure et Dieu, il ne punit pas ceux qui sont blessés. Il veut guérir à tout prix. À tout prix, je répète, à tout prix, Dieu veut guérir. C'est ça l'orthodoxie. Donc, je m'arrête ici en vous conseillant de nouveau de lire le fragment que je vous ai expliqué de l'apôtre vers l'Hébreu, chapitre 11, et de lire des prières orthodoxes. Ça va vous faire de bien, beaucoup de bien. Essayez d'apprendre par cœur même, d'apprendre par cœur, de le dire dans toutes les circonstances de vos vies, chez vous, dans le métro même, pourquoi pas, quand vous avez à faire un long trajet, pourquoi pas avoir une prière et la dire. Et la dire quand vous voyagez. Et surtout la confession. J'insiste beaucoup sur ça. On peut pas inventer une autre orthodoxie en se dispensant de la confession. On ne peut pas faire ça. Toute la tradition orthodoxe témoigne que l'homme trouve la guérison dans la confession et dans le sacrement de la communion. Autrement, ce n'est pas possible. Autrement, on fait de la philosophie. Que Dieu nous bénisse en carême avec beaucoup, beaucoup de joie et beaucoup de progrès dans votre vie spirituelle. Amen. Que Dieu vous bénisse.